Nous sommes toujours sur cette thématique de lorsque Jésus a dit à ses disciples, mais évidemment on peut s'attribuer ou s'approprier cette promesse, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Nous avons vu la dernière fois que pour expérimenter cette victoire, nous avons besoin de prendre notre croix et de se considérer comme mort à ce monde, tout comme ce monde est mort à nous-mêmes. On avait lu ensemble Galates 6,14 où il est dit « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, donc par la croix et par le Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Donc, on va vivre des situations difficiles, que ça soit dans notre être intérieur, dans notre âme, mais ça peut aussi être au travers des circonstances, de l'opposition, des divisions parfois dans le corps de Christ. Donc nous allons vivre des choses difficiles, mais on doit prendre courage parce que tout ce qui est de la chair, du monde du diable, a été vaincu. Donc on doit prendre une distance par rapport à ça et prendre notre croix pour expérimenter la vie éternelle. Quand on a été sauvé, on a cru dans la croix de Jésus-Christ et on a été transporté, selon Colossiens, du royaume de ce monde dans le royaume du Fils de son amour. Et de la même manière, quand on prend sa croix chaque jour, nous avons accès à la vie éternelle et non pas à la vie mortelle dont je vous avais parlé. Et cette vie éternelle qui ne change pas, qui est stable, où il y a une quiétude, une paix, un repos, nous permet, nous, d'expérimenter par le Saint-Esprit ce repos et d'avancer dans les promesses de Dieu et d'obéir par la foi. Et c'est comme ça qu'on va être mort au rejet, mort aux insultes, mort à la trahison parfois, des gens nous trahissent, mort à la culpabilité que nous pouvons des fois porter parce que nous n'avons pas tout fait parfaitement. Et donc on va être mort à tout ça. Et c'est ça la victoire en fait. La croix obtient pour nous cette victoire qui nous permet de plus être assaillis. Je pensais, pour illustrer un peu cette notion, vous savez, alors malheureusement c'est pas forcément un principe spirituel, c'est un phénomène naturel, mais lorsque vous avez fait quelque chose ou subi de la part des autres quelque chose il y a peut-être 20, 30 ou 40 ans, pour certains ou pour certaines situations, quand on y pense, ça ne nous atteint plus. On dit souvent « le temps a fait son œuvre ». Alors, quand je dis que c'est pas forcément spirituel, c'est dans le sens où c'est pas par l'œuvre de la croix qu'on a forcément oublié ou qu'on est protégé, c'est grâce au temps. Et d'ailleurs, c'est une forme de grâce. S'il fallait que l'on porte en permanence dans notre mémoire tout le fardeau de nos défaillances et de la défaillance des autres, ça deviendrait invivable. Donc, il est vrai qu'il y a un processus naturel qui est une grâce, qui ne sauve pas, mais c'est une grâce que Dieu accorde, dans le fait qu'avec le temps, on a tendance à oublier. En tout cas, pas oublier l'événement, mais oublier les conséquences ou la peine. Et je donne un exemple. Si, par exemple, dans mon enfance, j'ai commis une faute, j'ai menti à mes parents, peut-être, ou j'ai volé quelqu'un, ou que sais-je encore, je dois être honnête, aujourd'hui, je m'en sens pas coupable. C'est tellement loin que, entre le souvenir que j'en ai et le présent que je vis, il n'y a plus de lien. Le lien est interrompu. Et ben, de la même manière, et là c'est beaucoup plus rapide, quand on s'en saisit par la foi et que le Saint-Esprit nous fait expérimenter cette vérité, lorsqu'on se place devant Dieu et que vraiment on intercède, on s'humilie, on se dit « voilà Seigneur, c'est moi qui ai un problème », lorsqu'on s'approprie le fait que Christ est mort à la croix et par sa mort nous avons la victoire, il y a comme une distance qui se fait. C'est-à-dire que tout le mal que les gens peuvent nous faire, ça ne nous atteint plus comme ça nous atteignait peut-être quelques minutes ou quelques heures auparavant, tout simplement parce que l'œuvre de la croix fait son œuvre. Et c'est pour ça que Jésus parle de victoire. Ça ne veut pas dire que les circonstances s'arrêtent tout d'un coup ou que tout va bien, mais à l'intérieur, il se passe quelque chose de victorieux parce qu'il y a cette distance qui est prise. Et du coup, d'ailleurs, on devient même plus patient envers les autres. On est triste aussi de voir le comportement, parce que nous, on n'est plus affecté, je dirais, dans notre être intérieur. On est triste de voir des gens se comporter comme ça, comme on le serait lorsqu'ils se comportent vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Mais là, c'est comme si ce qu'on subissait, c'était quelqu'un d'autre qui le vivait. Pourquoi ? Parce que nous sommes morts à ça, nous expérimentons la croix, et donc il y a cette distance. Alors la question qu'on peut se poser, Et je me la suis posée, c'est pour ça que maintenant j'en parle. C'est finalement, qu'est-ce que c'est le monde? Parce que souvent on a ces, hein, le monde fait ci, le monde fait ça. Et bon, il y a cette expression, le monde en permanence dans nos discussions. Mais voyons un petit peu ensemble ce que la Bible dit du monde. Alors, on voit que, et là je vais aller très vite dans les premiers sens, parce que le monde peut avoir plusieurs sens. D'abord, le monde, ça peut être l'univers. C'est le monde entier créé par Dieu en Genèse chapitre 1 verset 1 et que le Nouveau Testament appelle le cosmos. Donc Dieu créa les cieux et la terre, c'est le cosmos. Donc ça, voilà, ça c'est le monde, mais c'est pas de ce monde-là évidemment dont Jésus parle lorsqu'il dit qu'il a vaincu le monde. Il n'est pas dit qu'il a vaincu la création en réalité. Et puis il y a un autre mot pour parler du monde, c'est oikoumene, ça part de la terre habitée, la terre des humains si vous voulez. Et par exemple en psaume, alors là c'est évidemment c'est pas le mot grec qui est utilisé, mais il est dit prêtez l'oreille vous tous les habitants du monde. Vous voyez, c'est le mot habitant qui est mis en valeur en psaume 49:2 ou en Matthieu 24:14, il est dit par exemple que l'évangile sera prêché dans le monde entier à toutes les nations. En fait, c'est aux hommes qui sont sur cette terre. Donc là c'est le monde et c'est le mot oikoumene. Et puis il y a un autre monde dont il est parlé, c'est le monde que Jésus voudrait sauver, d'accord ? Et c'est de nouveau le mot cosmos qui est utilisé à ce moment-là. Donc on voit que, faire attention, en fonction du contexte, le même mot peut avoir un sens légèrement différent. Et donc quand il est dit en Jean 3:16, Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas aimé la création, d'accord ? Il n'a pas aimé, il est parlé des habitants de la terre, mais là plus précisément, c'est les âmes que Dieu veut sauver. Donc ça, c'est ça le monde. On voit en Jean 1:29 que Jésus a ôté le péché du monde. En fait, il a ôté le péché les conséquences du péché qui étaient dans le cœur de chaque individu. Il est mort pour les péchés du monde entier, c'est-à-dire de tous les habitants de la terre. Donc ça parle vraiment des peuples là. 1 Jean 2:2. Il est le sauveur du monde, hein, Jean 4:14. Il s'offre en sacrifice pour le monde, hein, Jean 6:33. Et Dieu était en Christ, on voit ça dans 2 Corinthiens 5:19, réconciliant le monde avec lui-même. Donc on voit que par Christ, la paix a été proposée, et un encouragement donc a été proposé au monde. Mais il y a un autre sens, et alors il y en a deux autres dont je parlerai pas, ce sont les mondes futurs, hein, la vie éternelle, là c'est le mot aion qui est utilisé, ou les célestes, donc là ça parle d'un monde à venir, donc évidemment c'est pas ce monde-là que Jésus a vaincu. Donc par contre il y a un sens ou un... une terminologie qui c'est toujours le mot cosmos, et c'est ce monde-là là dont Jésus parle, c'est un monde de pécheurs mauvais, qui se détourne de Dieu et refuse sa grâce. Donc ça, c'est le monde dont il parle. Il y a les habitants de la terre, croyants ou pas, en recherche de Dieu ou pas, et puis il y a un monde particulier, comme on pourrait s'appeler ça une société, si vous voulez, un groupement d'intérêts. On le sait que c'est le diable qui va être derrière tout ça. Il y a le monde qui s'oppose à Dieu et refuse la grâce de Dieu. Et c'est ce monde-là que Jésus a vaincu. Pour être plus précis, lui qui était contemporain d'une génération, il a vaincu les pharisiens par sa mort, paradoxalement. Il a vaincu les sadducéens, il a vaincu les romains, il a vaincu les légalistes, il a vaincu les athées, les païens. C'est-à-dire qu'il a vaincu tout ce monde qui s'opposait à Dieu. Et donc c'est ce cosmos-là dont il parle, c'est-à-dire un milieu ou un endroit où le mal est entré, où règne la mort, selon Romains 5:12. Et donc nous sommes dans un monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans un monde où règne la mort, mais on n'est pas de ce monde pour participer à la mort. Et ça va dans tous les sens de notre vie, ça se niche partout. Par exemple, l'amour de Dieu a été déversé dans mon cœur, Romains 5. J'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai la doctrine, j'ai la parole de Dieu. Et puis, devant moi, il y a des situations, et des armes me sont offertes. Je parle des armes naturelles ou charnelles. Il peut y avoir le mensonge, la manipulation, la calomnie, l'insulte, la colère, la violence physique même. Ça, ce sont les armes de ce monde. Mais je n'en fais pas partie. Mais la question, c'est oui, mais je suis dans le monde encore. Je suis de ce monde, mais je suis encore dans le monde. Donc comment je fais? Eh ben, Dieu nous donne sa parole, la doctrine, didascalia, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, là c'est le mot rhéma, c'est-à-dire je reçois une parole précise de Dieu, Et à partir de ce moment-là, j'obtiens la victoire devant les situations sans utiliser les armes du terrain sur lequel je me trouve, à savoir ce monde. Et c'est dans ce sens-là où je prends ma croix et je garde cette distance avec le monde. Je ne suis pas du monde. Donc je suis encouragé parce que Dieu m'a donné des armes pour avoir une victoire. Par exemple, face à la haine, je peux rester calme, c'est une victoire. Je peux être patient, c'est une victoire. Je peux même aimer mes ennemis. C'est une autre victoire. Vous voyez, quand je citais cette phrase de Pasteur Stevens, « Mon bonheur ne dépend pas des circonstances, mais de ma relation avec Dieu », grâce à ma relation avec Dieu, je ne suis pas soumis aux circonstances qui m'arrivent. Je ne suis pas soumis à ceux qui me font du mal. Je ne suis pas, je l'espère, soumis à ma chair. Et donc, c'est en ce sens-là qu'on doit prendre courage. De façon plus précise concernant les personnes à qui s'adresse Jésus, en Jean 16, 33, lorsqu'il dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde », c'est qu'ils vont se retrouver devant des adversaires, devant des pharisiens encore, des religieux, devant les Romains qui vont les persécuter ou d'autres sur d'autres territoires. On sait que l'apôtre Paul, il a. Pensons à toute la liste de ce qu'il a traversé dans 1 Corinthiens. Lorsqu'il en fait la liste, il va dire « j'ai été fouetté 40 coups moins 1, il y a eu le naufrage, la famine, la disette, le rejet, mes pères, mon peuple m'a rejeté ». Enfin voilà, il fait une liste énorme. Mais néanmoins, on peut penser qu'il vivait spirituellement, il savait qu'il avait la victoire sur tout ça. Il savait qu'il était au-dessus, pas parce qu'il était orgueilleux et prétentieux, mais parce qu'il avait l'humilité de reconnaître la victoire qu'il y avait en Jésus-Christ. Et c'est en cela qu'il était encouragé. S'il regardait son existence, sa vie, vous savez, on aurait pu lui poser la question en disant « Bon, d'accord, tu accomplis quelques miracles, tu montes, t'implantes des églises, mais tu as passé quand même la moitié de ton ministère, la moitié du temps qui correspond à ton ministère, en prison. Regarde comment tu finis. » Donc il y avait de quoi se démoraliser, sachant qu'en général, on se souvient plus des mauvais moments que des bons dans ces cas-là. Eh bien, Paul prenait courage et a pu dire « Christ ne m'a jamais abandonné ». Pourquoi ? Parce qu'il se situait toujours à ce niveau au-dessus de la vie éternelle. Et donc, en Romains 5, 12, « La mort règne dans ce monde, mais nous ne sommes pas, je dirais, mandaté pour que la mort règne. On n'est pas des ambassadeurs de la mort. Nous sommes des ambassadeurs de la vie d'en haut, de la vie éternelle, qui va avoir un impact dans la vie immortelle où règne la mort. La mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et on le sait, ce monde, il faut, vous savez, quand je vous dis que des fois la connaissance ne suffit pas, on le sait, c'est écrit, où il est dit que tout le monde marche selon le train de ce monde. On le sait, c'est dans Éphésiens 2:2. On le sait que les gens marchent selon le train de ce monde. Et pourtant, combien de fois on est encouragé quand on l'expérimente et qu'on le constate? Mais pourtant, Dieu nous a prévenus. Mais comment du coup être encouragé alors qu'on a l'information? Et parce qu'on n'a pas, on ne sommes pas suffisamment connectés avec la vie éternelle, c'est ça qui nous décourage. Donc, on a l'information, oui, on est dans un monde où il y a un train qui est en route, il y a des habitudes de vie, il y a une manière de se comporter, un langage, une façon de penser, des stratégies. Mais Dieu nous l'a dit, mais de le savoir ne suffit pas pour être encouragé. Moi, mon encouragement, c'est pas de savoir simplement et de constater que les choses vont mal, et tiens, bah, Dieu me l'a dit aussi, donc on est d'accord. Ça suffit pas pour être encouragé. L'encouragement vient de la solution qui nous est offerte. Alors, face à l'enfer, il y a une solution, c'est le paradis. Face au diable, il y a une solution, c'est Jésus-Christ. Mais face à la vie mortelle que nous expérimentons, il y a la vie éternelle qui nous est proposée. Face au monde dans lequel nous sommes, il y a le royaume de Dieu qui nous est proposé. Au complot des hommes autour de nous, il y a la communauté des saints qui nous permet d'être en communion les uns avec les autres, etc., etc. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est encore dans ce monde, alors qu'on aimerait peut-être déjà être avec Christ, mais néanmoins, nous sommes encouragés parce que Dieu nous donne la provision. Oui, c'est ça. On sait aussi, par exemple, que le monde gît sous la puissance du malin. Voilà, c'est un fait. 1 Jean 5, 19. Et on sait qu'il est puissant. Il est appelé le prince de ce monde. On le voit dans plusieurs versets, Jean 12, 31, Jean 14, 30. Et donc, à partir du moment où nous faisons ce constat, mais que nous savons aussi qu'il y a une solution par la croix de Jésus-Christ, par laquelle il a vaincu le monde, et que nous pouvons vaincre également, il y a cette paix qui peut être suscitée et cet encouragement. Vous savez, le monde, c'est fou parce que Dieu nous envoie dans le monde annoncer la bonne nouvelle, hein, Matthieu 28, et pourtant, en 1 Corinthiens 1, 20 et 21, Paul nous dit que l'évangile est vu par ce monde comme une folie. Et j'allais dire réciproquement, nous voyons le monde comme une folie, mais le monde voit l'Évangile comme une folie. Donc c'est paradoxal parce que d'un côté le monde est opposé à Dieu et en même temps c'est à ce monde que Dieu nous propose de parler. Et c'est là où on doit croire par la foi que dans ce monde, mais on le sait parce que nous en faisions partie aussi, nous marchions selon le train de ce monde. Ben néanmoins, nous savons qu'il y a des individus que Dieu cherche, que Dieu envoie, qui sont aveugles, et nous allons leur dire, prends courage, il y a une autre vie que celle que tu es en train de, comment dire, d'expérimenter et qui te plaît pas. Pensons, alors évidemment Lot était déjà sauvé, mais c'est pour vous donner une image. On sait que Lot se morfondait de voir ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Que s'est-il passé? Il a été appelé à en sortir. Dans des circonstances particulières, mais n'empêche que c'est un fait. C'est Dieu qui a envoyé les anges, grâce aussi à l'intercession d'Abraham, qui priait selon le cœur de Dieu, et Dieu a envoyé des anges pour appeler Lot à sortir de Sodome et Gomorrhe. Il lui a proposé une autre vie, un autre départ. Malheureusement, il n'en a pas profité, on sait ce qui s'est passé après avec ses filles. Mais tout ça pour vous dire que de la même manière, dans le Sodome et Gomorrhe dans lequel nous vivons, il y a des gens qui se morfondent, croyants ou pas, et nous sommes appelés à être des anges, des envoyés, pour aller leur proposer un encouragement et une solution pour leur vie. Donc nous sommes en terrain hostile, et en même temps, il y a des promesses qui nous sont faites. Et donc, pour ça, on a besoin, selon 1 Corinthiens 2:12, de vivre par l'Esprit. C'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de lutter contre l'esprit du monde. C'est pas simplement en faisant un constat et des gens en se décourageant et en se disant « moi je suis pas de cela ». Non, c'est de dire « par l'Esprit de Dieu, je peux combattre l'esprit de ce monde et accepter finalement ce que je traverse ». Vous savez, je ne sais pas ce qu'il y en est dans votre pays, mais nous dans notre pays, il y a des lois qui sont votées, des lois dites éthiques, mais en fait qui n'en sont pas, c'est pas éthique du tout, ça va à l'encontre du bon sens même, mais en tout cas, ça va à l'encontre du sens de Dieu et du sens de la vérité. Il y a de quoi être découragé, on se dit, mais dans quel monde on vit, dans quel monde on va laisser à nos enfants? Il y a de quoi être découragé. Et en même temps, on doit se dire, ouais, mais ce monde va passer. Ce monde va passer. La parole de Dieu, elle, demeure éternellement. Dieu ne change pas. Et du coup, il y a une paix qui peut m'envahir. Il y a de l'adversité, il y a des difficultés, il y en aura encore demain, mais je sais que, au final, on va expérimenter la victoire. La victoire est déjà là. La victoire, elle est acquise. Mais néanmoins, c'est une question de temps. Vous savez, durant la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand il y avait la guerre entre le Japon et les États-Unis, le Japon donc avait envahi pas mal de territoires, et puis il y a eu les bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, il y a un traité de paix, qui a été, une armistice en tout cas dans un premier temps qui a été signé, et donc le Japon a capitulé, hein, ils ont accepté leur défaite. Mais comme ils avaient envoyé des soldats sur plein d'îles, parce que dans le Pacifique, il y a des centaines, voire des milliers d'îles. Et parfois, il y avait des soldats perdus qui étaient dans un avion. L'avion s'est écrasé en mer. Ils ont sauté en parachute. Ils se sont retrouvés sur une île. Et donc, il y avait des gens, des Japonais, des soldats, qui avaient encore cette mentalité de combattants et qui voyaient en l'Amérique encore des ennemis. Parce qu'ils ne savaient pas que la victoire... Enfin, que la défaite, en tout cas, que l'armistice avait été signée, qu'on n'était plus en guerre. Ils ne le savaient pas. Et il y a même eu des cas assez extraordinaires où on a retrouvé un soldat japonais 30 ans après l'armistice, sur une petite île, et il avait encore son arme bien astiquée, il était prêt à en découdre, à se battre devant certains envahisseurs. Et en fait, cette personne-là ne savait pas qu'un papier avait été signé, que c'était terminé. Et ben, de la même manière, nous, on doit avoir d'être concentré sur le fait que je regarde pas aux circonstances parce que j'ai été informé que la paix avec Dieu m'a été proposée, que tout ce qui me condamnait a été cloué à la croix, comme il dit en Colossiens, et que voilà, il y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est cette paix-là que j'ai. Mais je suis encore dans un monde en guerre parce que ce monde, le diable, n'accepte pas la victoire de Jésus-Christ. On sait aussi qu'il y a eu sur certaines îles des soldats conscients que le traité avait été signé, mais ils n'acceptaient pas, ils continuaient de se battre. Mais c'était un combat perdu d'avance, parce que de toute façon, c'était impossible pour eux de renverser la situation. Et ben, de la même manière, le diable mène un combat qui est perdu d'avance. Notre chair mène un combat qui est perdu d'avance. Le monde mène un combat qui est perdu d'avance. Le monde, on l'a vu, s'oppose à Dieu, s'oppose à la grâce, s'oppose au salut. Mais c'est un combat qui est perdu d'avance. Nous savons, sans prétention, que la victoire a été acquise à la croix. Il y a eu quelque chose qui s'est passé lorsque Christ a versé son sang. Et donc, on écoute cette vérité dans notre âme et nous sommes ainsi encouragés. Ça ne veut pas dire que on est enfermé, vous voyez, on se dit un peu comme un moine dans un monastère en disant voilà, je suis plus du monde et j'attends le retour de Christ, mais on vit qu'entre nous, dans la solitude spirituelle. Non, on est envoyé dans le monde, on vit dans le monde. Mais pour accepter d'être envoyé dans le monde, il faut accepter de prendre sa croix. D'abord pour ne pas être souillé par le monde, mais aussi pour accepter de servir le monde, pour accepter d'annoncer une bonne nouvelle aux perdus, d'annoncer une bonne nouvelle aux aveugles. Mais nous avons en même temps cette victoire qui ne nous rend pas prétentieux, mais au contraire serviteurs. Vous savez, on peut penser que quand des soldats américains se retrouvaient avec ces soldats japonais qui pensaient encore être en guerre et qui risquaient de se faire tuer parce que, voilà, ils continuaient de se battre, de la part des soldats américains, ça devait faire bizarre parce que, en fait, eux savaient que c'était plus des ennemis normalement, que c'était des brebis errantes qui n'étaient pas au courant ou qui n'acceptaient pas l'évidence. Eh ben, c'est un peu la même chose aujourd'hui. Les gens n'acceptent pas l'évidence que Dieu est le vrai Dieu. Ils n'acceptent pas l'évidence qu'on a besoin d'un rédempteur pour notre péché. Ils n'acceptent pas l'évidence que sans le versement du sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Et ils ne savent pas tout ça. Mais néanmoins, on est à leur service. Nous sommes des mandatés, et nous aimons nos ennemis et nous allons au-delà des circonstances. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut entrer dans le plan de Dieu qui est le nôtre et vivre en même temps cette victoire qui pourtant n'est pas palpable encore alors que nous sommes sur cette terre. Et c'est pour ça que nous devons vraiment avoir en tête l'attitude qui est la nôtre aujourd'hui. Est-ce que je vis dans ce monde comme quelqu'un de frustré? Non, ça c'est pas le plan de Dieu pour notre vie. Peut-être que je peux être triste, je peux intercéder, je peux me révolter d'une certaine manière contre le mal et contre le malin. Ça peut m'arriver. Mais néanmoins, je ne dois pas rentrer dans le défaitisme, dans une forme de langueur, d'attendre le retour de Christ. Bien sûr, on l'attend. Et même, il y aura des récompenses pour ceux qui l'attendent. Mais on l'attend et en attendant, nous sommes encouragés à donner notre vie pour que d'autres puissent l'attendre avec nous. Et c'est ça la victoire que nous pouvons avoir dans notre cœur. C'est que nous prenons notre croix et par là même, nous expérimentons la victoire qui est en Jésus-Christ. Le monde agit contre nous, mais il y a cette distance. Ce monde est crucifié pour nous comme nous sommes crucifiés au monde. Et sans la croix et l'intégration de la victoire de la croix dans notre vie, il n'y a pas de victoire en réalité. Et c'est par la mort à nous-mêmes que nous pouvons vivre cette victoire. Que Dieu vous bénisse.